Alors aujourd'hui, nous terminons notre enseignement sur la souffrance. Le deuxième volet. Le premier volet, nous avons parlé de si Dieu est bon, pourquoi alors que nous souffrons? Et aujourd'hui, nous allons, le titre du message, pourquoi les chrétiens souffrent? Pourquoi les chrétiens souffrent? Et nous tournons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Alors, le sujet ce matin de la souffrance se réfère en partie dans le monde chrétien. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, où il est dit, « Car de même que les souffrances de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Alors, pourquoi le chrétien souffre-t-il? On se questionne beaucoup sur la souffrance. Vous vous questionnez sur la souffrance. Vous n'êtes pas les seuls. Le prophète Jérémie s'est lamenté. Il a dit, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? » Le prophète Jérémie. Job a dit à Dieu, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? » Alors Job avait beaucoup souffert. Et t'es rendu un temps que Job parlait à Dieu, il le prenait pour son ennemi, tellement qu'il souffrait. Le psalmiste a dit, « Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? » Il parle à Dieu, « Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? » Et finalement, Jésus sur la croix, qui a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, notre première série, nous avons parlé de la souffrance. Et ce que je veux aborder ce matin, c'est pourquoi les chrétiens souffrent. Et ces gens-là, le prophète Jérémie, Job, le psalmiste, se sont questionnés sur la souffrance, comme nous, nous nous questionnons sur la souffrance. Pourquoi moi? Pourquoi tant de souffrance pour un chrétien? Vous savez, il arrive de mauvaises choses à tout le monde. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit dans Romains. Nous vivons dans un monde déchu, un monde qui est maudit à cause du péché. Et étant donné que les croyants sont des pécheurs rachetés, vivant dans un monde déchu, de mauvaises choses leur arrivent également. Et Dieu le permet. Dieu permet que la souffrance soit non seulement pour les gens sans Christ, mais pour son peuple. La souffrance est un moyen que le Seigneur utilise pour attirer notre attention et pour accomplir ses desseins dans notre vie. Il est vrai que la souffrance augmente notre confiance en lui. Puis elle demande une bonne réaction de notre part afin que s'accomplisse l'œuvre de Dieu. En passant, souffrir n'est pas un acte vertueux ni un signe de sainteté comme nous pouvions penser autrefois. Ce n'est pas un moyen de gagner la faveur de Dieu ou de soumettre sa chair comme on appelle l'ascétisme. L'ascétisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit cloîtré puis il va s'affliger, se faire souffrir lui-même. Comme on a vu, si vous avez vu le film Da Vinci Code, il y a une séance dans le film que c'est quelqu'un comme ça qui est cloîtré puis qu'il s'afflige des blessures. Autant que possible, on évite la souffrance. Ecclésiens chapitre 7, verset 14, il est dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a fait l'un comme l'autre. Nous devons réfléchir. Nous pouvons nous poser les questions suivantes. Lorsque la souffrance frappe à notre porte, quelle est ma réaction? Quelle devrait être ma réaction? Est-ce que j'apprends dans cette épreuve? Comment le Seigneur peut-il se servir de cette affliction dans ma vie? La souffrance, c'est ce qui nous blesse, c'est ce qui nous irrite. Comme j'ai dit, c'est un instrument que Dieu utilise pour attirer notre attention et pour accomplir ses plans. C'est quoi la souffrance? Ça peut être un cancer, ça peut être un mal de gorge, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher, un échec personnel, une déception au travail, une fausse rumeur à notre sujet. Ça peut être n'importe quoi. Il peut s'agir de toute forme de souffrance, d'épreuve aussi minime et irritante qu'une piqûre de moustique, jusqu'à une grande épreuve comme le lion que Daniel a dû affronter dans la fosse aux lions, dans le livre de Daniel. Principale cause de la souffrance, j'ai 4 causes. Nous souffrons car nous vivons dans un monde déchu, un monde qui n'est pas parfait, un monde qui a été déchu par le péché d'Adam et Ève. Première raison. Deuxième raison, nous souffrons à cause de notre propre bêtise. La Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est une règle botanique élémentaire. On a des graines, on sème, je ne sais pas, on veut semer pour des carottes, on récolte des carottes. Si on sème pour des choses de justice, on récolte la justice. Si on sème la méchanceté, on récolte la méchanceté. Dans les livres de Job, c'est écrit « Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits, tôt ou tard. » Troisième raison, nous souffrons parce que ça peut être le châtiment de Dieu. Dans le livre Hébreu, chapitre 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et quatrième raison, nous souffrons parce que nous sommes parfois persécutés à cause de notre foi. Accepter de souffrir pour la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? C'est ce que l'apôtre Paul va dire. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? C'est certain que la souffrance va révéler une faiblesse, va révéler une mauvaise attitude, un besoin qui a besoin d'être éliminé comme les impuretés. La souffrance va faire comme le processus du raffinement de l'or. Vous savez, l'or, c'est le métal le plus précieux. Et quand on veut vraiment extirper de l'or pur, qu'est-ce qu'on fait? On le raffine, on le chauffe au-dessus de 500 degrés. On met certains produits à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais... Et on en récolte vraiment là, toutes les scories, toutes les choses qu'on ne veut pas qu'ils soient avec l'or, ils s'en vont toutes. Et l'or est à peut-être à 99,9 et de l'or pur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le chauffe. Alors, c'est un peu le même processus souvent avec la souffrance. C'est que la souffrance va permettre à ce qu'un... des mauvaises choses en nous puissent sortir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, la souffrance fait mal, la souffrance est déconcertante. Ce n'est pas facile de souffrir. Et c'est mystérieux d'une certaine façon. Moi, j'aurais aimé que lorsque tu souffres, que tu puisses, je ne sais pas, avoir des gros points blancs qui arrivent au-dessus de toi, qui te permettent de voir que tu es en train de souffrir. J'aurais aimé ce processus-là. Puis là, tu dis, quand tu vois tes gros points blancs, tu dis, ben coudonc, je suis en train de souffrir. Fait que ça te donne c'est comme si c'était un signal. Malheureusement, c'est pas ça. C'est un autre système. Alors, la souffrance fait mal. La souffrance a une raison d'être. Pourquoi? Parce que Dieu l'a permis. Dieu a permis que l'être humain souffre pour un certain temps. Également, la souffrance nous éprouve. La souffrance prouve notre caractère, notre intégrité. La souffrance prouve la qualité de notre foi. La souffrance est également un processus. Elle prend du temps. Nous pouvons souffrir longtemps. Dans Romains chapitre 5, verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Dans Jacques, chapitre 1, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La souffrance est un processus dans nos vies. La souffrance provoque une opportunité. Elle est une occasion de démontrer la gloire de Dieu et la façon que nous avons été transformés, de partager notre témoignage et de développer notre ministère. Nous pouvons souffrir pour un certain temps et cette souffrance-là va être un témoignage. La souffrance demande notre coopération. La souffrance demande une bonne réaction de notre part afin que s'accomplisse le plan de Dieu. La souffrance est également prédéterminée ou assignée. 1 Pierre chapitre 1, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La souffrance est prédéterminée d'avance. La souffrance est également inévitable. La question n'est pas si nous aurons des épreuves, mais comment réagirons-nous? 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » L'Église de Christ est destinée à souffrir. Comme je dis bien souvent, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Christ a souffert, nous allons souffrir. Si nous voulons suivre ses pas. 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La souffrance est inévitable, frères et sœurs. Et la souffrance est un combat. Épreuve égale combat. C'est pas facile, ce n'est jamais facile car la souffrance fait mal. Nous devons combattre si nous voulons passer à travers. Et j'aimerais continuer et dire les raisons. J'ai expliqué un peu la souffrance, c'est quoi? Les raisons et les buts de la souffrance. Pourquoi le chrétien doit souffrir? Et j'ai plusieurs raisons. La première raison, c'est pour éprouver l'authenticité de notre foi. Proverbes chapitre 17, verset 3, « Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Dans le livre des Chroniques, Dieu abandonna Ézéchias pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Alors Dieu a éprouvé Ézéchias. Des siècles plus tôt, Moïse avait dit à Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Afin de t'humilier, de t'éprouver, Dieu a laissé le peuple d'Israël 40 années dans le désert. Job, j'ai parlé de Job tout à l'heure, Job a connu des souffrances presque inconcevables. Écoutez, Job a perdu sa fortune, Job a perdu ses enfants, Job a eu une maladie. Je dirais débilitante. Sa femme s'est retournée contre Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ses meilleurs amis? Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Alors même ses amis n'ont pas été capables de le réconforter. Et à un moment donné, Dieu était devenu son ennemi. Job a dit, « Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis, la main de Dieu m'a frappé. » Alors Job était troublé, Job était à terre. Par contre, la foi de Job en Dieu est restée intacte. Et je n'ai pas le temps de tout passer, tout expliquer le processus du livre de Job. Quand on est dans souffrance, on devrait lire le livre de Job. Et Dieu a rétabli Job à la fin de sa maladie. Dieu l'a rétabli. Dieu lui a donné d'autres enfants. Il est devenu plus riche qu'il était. Mais Dieu s'est servi de Job pour un but. Mais Job a souffert. Alors, première raison, pour éprouver l'authenticité de notre foi. Deuxième raison, pour rendre témoignage. La souffrance nous permet de témoigner. La souffrance est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance par ses serviteurs afin de vérifier et confirmer son message. Elle provoque des opportunités pour les croyants de démontrer leur qualité d'ambassadeur de Christ. Glorifier Dieu, entre autres. Manifester la puissance de Dieu aux autres. Manifester le caractère de Christ. La souffrance nous permet de témoigner. Richard Wurmbrand. Qui est Richard Wurmbrand, c'est un pasteur de l'Église luthérienne en Roumanie. Et ce pasteur-là a passé 14 années en prison, dans les prisons communistes, torturé nuit et jour. Il a témoigné, il a continué à témoigner dans les cellules, il a témoigné à ses geôliers en plus. Il a amené des gens à l'Évangile dans les prisons. 14 années en prison. En 67, il lance un ministère pour évangéliser les endroits persécutés tout en aidant les victimes. Ça s'appelle Voice of the Martyrs. C'est un ministère, il y a des revenus de 40 millions par année qui rentrent dans ce ministère-là. Savez-vous qu'est-ce qu'il disait? Une fleur, si vous l'écrasez sous vos pieds, se venge en vous donnant son parfum. Les martyrs dans les prisons, en échange des tortures, donnent de l'amour. C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup, qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de prêcher debout, il était obligé de prêcher assis parce qu'il n'avait pas la capacité physique, il avait eu trop de coups et de blessures. Le pasteur Paul Schneider, en 1934, en Allemagne, pour l'Église confessante allemande, emprisonné pour sa foi, torturé également, qui a été mis à mort, qui a prêché aux détenus dans les prisons. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, deuxième raison, pour rendre témoignage. Troisième raison, pour développer notre empathie, notre capacité à réconforter les autres. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Celui qui a beaucoup souffert va avoir de la compassion pour les autres. Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Notre capacité de comprendre la souffrance des autres, de réconforter les autres. Troisième point. Quatrième point, pourquoi le chrétien souffre? Pour nous éviter de nous enfler d'orgueil. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. L'homme est orgueilleux. Ça prend souvent de la souffrance pour le replacer. Je dirais que c'est un de ses plus grands péchés, c'est l'orgueil, comme Satan. Alors, l'apôtre Paul est un homme respecté. L'apôtre Paul est un homme instruit. Il avait double citoyenneté. L'apôtre Paul était missionnaire. L'apôtre Paul faisait des prodiges et des miracles. Un des grands prédicateurs, un écrivain, un érudit, un pharisien. Et plus que ça, l'apôtre Paul a eu des révélations spéciales. On dit qu'il est monté en vision au troisième ciel. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? L'apôtre Paul avait une maladie. Et il a prié 3 fois le Seigneur pour lui enlever cette maladie-là. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? « Ma grâce te suffit. » Et Paul dira, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Alors, il y avait une maladie, il y avait quelque chose qui le faisait souffrir. Alors, Dieu l'a permis pour pas qu'il soit enflé d'orgueil. Avec toute cette révélation qu'il avait eue, toute cette notoriété que l'apôtre Paul avait, alors Dieu a permis que Paul, et en plus de toutes les tribulations qu'il a eues, toutes les épreuves qu'il a eues, alors, quatrième raison, pour nous éviter de nous enfler d'orgueil. Cinquième raison, pourquoi le chrétien souffre, Hébreux chapitre 12, verset 5, pour être formé. Dieu se sert de la souffrance pour développer en nous la droiture et pour améliorer notre marche avec lui. Qu'on soit discipliné pour le péché. Dieu a besoin de la souffrance, se sert de la souffrance pour souvent nous ramener parce qu'on s'en va à l'écart un petit peu. Et oups, ça fait mal, Seigneur. Oh, excuse-moi. Là, il se sert de la souffrance pour nous ramener, pour nous former, pour se discipliner face au péché. Pour nous former également, pour retrancher les mauvaises choses en nous, le bois mort dans nos vies, les faiblesses, notre attitude, nos valeurs immatures, afin qu'on porte du fruit. On a besoin d'épreuves pour nous révéler certaines choses qui sont cachées. Dieu a besoin de, Il se sert de la souffrance pour nous enlever des choses, des fois qu'on ne veut pas que ces choses-là soient enlevées. Pour être formé également, pour grandir, que ça nous puisse, pour éprouver notre foi, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et être obéissant à Dieu. Dieu se sert de la souffrance pour qu'on soit obéissant. Le psalmiste a dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Je m'égarais. S'il fait chaud, il fait chaud dehors, puis tu veux demander, tu veux voir si ton fils va t'obéir, tu lui demandes de passer la tondeuse. Mais ton fils sait que il fait chaud, la tondeuse, ça va peut-être prendre 2 à 3 heures, ça lui tente pas, il est en train de jouer sur sa console. Il sait que s'il fait chaud, il va passer la tondeuse, il va manquer ses jeux, il va peut-être manquer ses amis, ça va faire mal, il va souffrir. Mais si tu veux voir vraiment si ton fils va t'obéir, tu vas lui donner quelque chose que ça ne sera pas évident. Et si ton fils le fait, c'est parce qu'il est très obéissant. C'est facile d'obéir quand c'est justement facile pour nous. Mais quand c'est moins facile, obéir, c'est plus dur. Ça va demander des sacrifices, du courage, de la discipline. Alors Dieu nous forme. Le missionnaire Kopé Yohanan, fondateur et directeur international d'Évangile en Asie, Gospel for Asia, a dit « Pendant des mois, j'ai voyagé sur les routes poussiéreuses dans la chaleur du jour et j'ai grelotté durant les nuits, endurant la souffrance comme des milliers de missionnaires natifs de l'Asie le font aujourd'hui pour amener l'Évangile aux âmes perdues. » Il dit « J'ai voyagé, j'ai souffert, j'ai grelotté, ça n'a pas toujours été facile. Et durant les années qui ont suivi, j'ai réalisé avec le recul que ces 7 années de vie d'itinérance étaient l'une des plus grandes expériences d'apprentissage de ma vie. » Ben oui, souvent souffrir, c'est une formation. Comme l'athlète qui a besoin de, s'il veut se rendre au podium, il doit s'entraîner, se discipliner, faire attention à sa nourriture, faire attention à son sommeil, faire attention avec ses sorties le soir. Il doit vraiment, là, c'est pas facile, il doit souffrir pour atteindre un certain niveau. J'arrive à la fin. 6e raison, il y a beaucoup de raisons pour souffrir. Malheureusement, on souffre. Pour nous rappeler notre espérance céleste. Paul a écrit aux Romains, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Plus que tu vas souffrir, plus que tu vas espérer d'aller au ciel. Plus que tu vas vouloir rejoindre un autre monde, plus que tu vas espérer les choses de Dieu. Si tu roules dans l'argent, si tu roules dans les choses du monde, si tu roules dans les valeurs matérielles, dans la haute gastronomie, puis dans les hautes sphères de la société, puis si tout va bien, tu oublies Dieu. La souffrance va te rappeler à l'ordre un petit peu. 7e raison, pourquoi que le chrétien souffre, afin de manifester la vie et le caractère de Christ. Pourquoi? Ben oui, pour être semblable à Christ. Comprendre la souffrance de Christ. Comment qu'il est descendu du ciel dans sa gloire et a souffert pour le salut de l'humanité. Il y a un missionnaire à Bombay, en Inde, qui raconte combien il a passé de temps avec des mendiants, des hommes pauvres qui allaient mourir, comment il a donné son argent, ses vêtements, sa nourriture, témoignant de l'amour de Christ et amenant des âmes au Sauveur. Comment il a manifesté le caractère de Christ par la souffrance en donnant aux moins nantis. Huitième raison, démontrer la nature pécheresse des hommes méchants et la droiture de la justice de Dieu. Démontrer la nature pécheresse des hommes méchants et la droiture de la justice de Dieu. La souffrance sous la forme de persécution et de traitements violents de la part des hommes est utilisée par Dieu pour mettre leur comble à leur péché. C'est que tu es un témoignage en souffrant, tu deviens un témoignage contre les hommes qui sont sur cette terre. On ne peut pas le voir présentement. Un jour, on va le comprendre. Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 6, c'est écrit, ça c'est à la fin de la Bible. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut dire là-dessus? On parle de la chute de Babylone. Je vis cette femme. Cette femme, c'est une représentation, c'est un symbole. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Alors, ce que Dieu veut dire, là, c'est que là, on est au ciel et Dieu voit des gens. Voit une représentation qu'il appelle une femme, voit quelque chose qui représente un martyr, que des gens qui ont été martyrisés pour cette chose-là. Cette femme-là est ivre du sang des saints. Elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été tués à cause d'elle. C. Robert Anderson, c'est un exégète britannique de la fin du 19e siècle, a écrit au cours des âges que l'Église catholique romaine se serait rendue responsable de l'assassinat de plus de 50 millions de chrétiens au cours de l'histoire. Ça, c'est un témoignage. Je ne suis pas en accord. C'est ça le sang des gens, le sang coulé. Et à un moment donné, ça va être mis en accusation. Dieu va se servir de cela pour dire, écoutez, c'est comme ça. Dieu se sert de la souffrance des gens qui vont mourir pour la cause, pour justement qu'ils puissent accuser ces gens-là. Et juger. Vous savez que Dieu est juge. Dieu, c'est un juge. Et quand on va arriver devant Dieu, et quand on va se arriver devant Dieu, on va vouloir dire, bien, coudonc, pourquoi qu'il m'arrive telle chose? Pourquoi? Dieu va avoir un livre ouvert, puis il va tout écrire les événements qui sont arrivés. Puis il va vous mettre en accusation. Il va dire, oui, tu as permis que peut-être une centaine de personnes dans un camp en Asie, tu as permis que ces gens-là meurent, des gens qui témoignaient, tu les as tués. Et ça vient jouer contre toi, tu es mis en accusation. Dieu est un juge et le sang de ces personnes-là va témoigner contre cette personne-là. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. On ne prend pas le sang de quelqu'un. Le sang, c'est la vie. Alors, huitième raison pour démontrer la nature pécheresse de l'homme. Neuvième raison, pour élargir notre ministère. Philippiens, chapitre 1, verset 12. La souffrance va rouvrir des portes pour un ministère dans lequel nous n'avions jamais pu imaginer œuvrer. Prenez l'exemple de Paul. Paul est en prison. Il est enchaîné à des... Non, Paul est... dans le livre des Romains, Paul, à la fin de sa vie, est enchaîné à des soldats romains dans sa propre maison. Puis il se sert de cela pour propager l'Évangile. Pour élargir notre ministère, pour faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Dieu va permettre qu'on soit dans une certaine situation, on va peut-être souffrir, mais en même temps, on va pouvoir œuvrer pour lui. Et dixième raison et la dernière, pour nous détourner du monde et de la pensée du monde et de mettre notre confiance dans le monde. Quand tu te confies tout le temps dans l'homme, dans tes propres ressources, tu ne te confies plus en Dieu. Philippe a dit à Jésus, quand à un moment donné, ils ont évangélisé, il y avait des gens, puis ils ont voulu nourrir les gens. Puis Philippe a dit à Jésus, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors Philippe a dit à Jésus, il y a beaucoup de personnes, on veut les nourrir pour pas qu'ils puissent retourner chez eux sans avoir mangé, mais on a seulement 200 deniers, on n'a pas d'argent. Puis Jésus a fait ça seulement pour éprouver Philippe. Et Philippe était, d'une certaine façon, tout le monde avait faim et il était un petit peu déconcerté par cela. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai la foi que, c'est pas facile, mais j'ai la foi que tu vas pourvoir pour qu'on puisse manger. Mais là, il était complètement. Et la Bible dit que Jésus disait cela pour les éprouver, afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Quand tu as quelque chose, quand ça ne va pas, quand tu veux, quand il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Je disais justement un reportage avec ce qui est arrivé, le tremblement de terre au Népal. Il y a des gens, c'était dans le journal cette semaine, que il y a un jeune Québécois qui était en train de faire l'ascension de l'Everest. Il était avec des porteurs, puis il y a eu un grand tremblement de terre. Puis là, personne n'a bougé, puis on dit « qu'est-ce qu'on fait? » Les porteurs, la première chose qu'ils ont dit, on va prier. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en montagne, c'était excessivement dangereux. Puis ils ont été épargnés. Il a fallu que je pense qu'ils passent deux jours, ou une journée ou deux nuits à l'abri pour après ça être secourus par les hélicoptères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié afin de mettre notre confiance en Dieu. Alors, en conclusion, ceux qui souffrent pour Christ verront que la consolation abonde par Christ. C'est notre verset au départ. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, nous avons part aux souffrances, de même notre consolation abonde en Christ. Oui, nous devons souffrir, mais le Seigneur nous console. La souffrance amène une consolation. C'est interrelié. Il n'y a pas seulement de la souffrance, il y a de la consolation de la part de Dieu. Dieu ne nous laisse pas souffrir pour souffrir. Oui, mais à quelque part, nous apprenons et il y a une consolation de la part de Dieu. Bien que Dieu soit le Dieu de toute consolation, il y a une condition importante pour recevoir une consolation. On doit souffrir pour la cause de Christ. Si tu souffres parce que tu as été désobéissant, impénitent, c'est d'autre chose. Paul dira que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Les chrétiens qui sont désobéissants, les chrétiens qui vont de plus en plus loin dans le mal, peuvent s'attendre au châtiment de Dieu et non pas à la consolation, même si d'une certaine façon ils souffrent. Il faut souffrir pour la cause de Christ. Lamentations, chapitre 3, verset 21, il est dit que « les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Qu'est-ce que Paul a dit à la fin de sa vie, l'apôtre Paul? Il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Alors, Paul va dire, « J'ai été abandonné. » On sait que Paul a souffert, il a beaucoup souffert, mais il a été abandonné en plus. Mais qu'est-ce qu'il dit plus loin? Il dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie pour moi et que tous les païens l'entendent. » J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, Paul dit, première chose qu'il dit, oui, j'ai été abandonné. Paul dit qu'il a souffert, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Alors, oui, souffrance, mais consolation. Souffrance jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qu'il dit? Pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il y a une souffrance, il y a un début, il y a une fin. Et la parole de Dieu dit que Dieu ne permettra pas que vous souffriez plus que ce que vous êtes capable d'endurer. Alors, oui, fortifions-nous, aidons-nous, soyons, prenons, espérons, malgré qu'il peut y avoir des temps difficiles. Et remettons tout cela à Dieu. Et n'oublions pas que Dieu console en toutes choses. Alors, peu importe ce qui peut nous arriver en ce moment, peut nous arriver plus tard dans le futur, n'oubliez jamais, jamais que, oui, nous devons souffrir, nous sommes appelés à cela, mais qu'il y a une consolation. Et l'apôtre Paul dira que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire et les choses éternelles dans le monde futur. Amen.